Bonjour à tous. Alors, bienvenue à cette session consacrée aux enjeux liés aux droits humains pour notre secteur du capital investissement. Donc, je suis Déborah Rajaou-Safara, responsable ESG chez Cerea et je coordonne le groupe de travail durabilité depuis 2 ans. Aujourd'hui, donc, nous avons la chance d'avoir l'équipe Xapa qui nous présentera la boîte à outils dédiée aux droits humains qui est représentée par Farid et Solène Renard. Ensuite, nous aurons deux témoignages de retour d'expérience avec deux membres de notre groupe de travail, Sylvie Lebras d'Arca Capital et de Céline André d'Eiffel. Je vous invite à poser des questions durant la session et on aura un temps de questions-réponses aussi à la fin. Donc voilà nos intervenants. Je vais tout de suite commencer par vous présenter le contexte et les membres du groupe de travail qui se sont impliqués activement dans la contribution de ce livrable, qui est une boîte à outils. Donc l'objectif, c'est d'accompagner nos sociétés de gestion dans la compréhension et l'intégration des enjeux liés aux droits humains et de guider les équipes d'investissement dans tout ce qui va être la mise en œuvre de la réglementation européenne et aussi d'accompagner nos sociétés en portefeuille. Donc voilà, je laisse la parole à Farid. Ah oui, donc la boîte à outils, elle est composée en fait de trois parties. Donc il y a une partie introductive qui va dérouler toutes les réglementations européennes qui vont être en lien avec les droits humains. Ensuite, nous avons sur la deuxième partie, donc la boîte à outils, qui présente trois études de cas sur trois secteurs différents. Donc, on a la partie textile sur tout ce qui va être problématique liée aux enjeux d'approvisionnement en matière agricole. Un deuxième cas sur le secteur de la construction. Et un troisième cas sur les centres d'appel et les droits du travail en France. Et ensuite, on aura toute une partie annexe avec le lien en open source des différents outils qu'on a présentés dans le guide. Voilà, je laisse la parole à Farid pour poursuivre sur le contenu. Merci.
Merci Déborah et bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Farid Badache, Xapa. Donc bon, ça fait pas mal de temps que je travaille avec Xapa. On travaille beaucoup sur ces questions de droits humains, particulièrement dans les environnements d'investissement. Et en fait, cette boîte à outils, on a pris beaucoup de plaisir à travailler ça collectivement dans le cadre de ce groupe de travail. Elle répond à des injonctions et un cadre un peu convergent, un faisceau convergent, notamment réglementaire, tel que plusieurs éléments sont affichés à l'écran. On a ce principe qui est porté sur le Do No Significant Harm. En fait, il y a un principe qui n'est pas facile à appréhender de manière très concrète pour les sociétés de gestion. On est tous mobilisés sur des programmes visant à activer la décarbonation ou toutes sortes d'enjeux, savoir comment flécher vers du vert, mais en fait, avec quelle prise en compte des enjeux de droits humains, ce n'est pas évident. On sait que il y a toute une refonte qui est en cours, bien évidemment, avec des consultations et qui sont dont l'analyse est en cours de remise à jour de la SFRD, mais qui impose aussi à un moment ou à un autre dans des qualifications d'article 8, d'article 9, notamment, mais pas seulement, d'avoir comme une bonne compréhension d'impact, mais aussi de risque, de primary adverse impact, qu'il faut pouvoir mesurer. Et tout ça, ça s'inscrit en fait dans une dynamique qui fait qu'à un moment ou à un autre, il faut savoir commencer par quelque part, structurer les choses de manière méthodologique et être capable d'organiser une démarche, je dirais, opposable, de diligence raisonnable et sans forcément avoir la vocation de faire quelque chose de parfait et de totalement holistique, au moins enclencher le processus. Alors si on va sur la page suivante. Ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, et ça fait lien avec la page précédente, On a quand même un cadre de devoir de vigilance méthodologique qui est celui qui est proposé par l'OCDE en 5 étapes. Donc, c'est celui qu'on utilise dans la boîte à outils parce qu'il permet méthodologiquement de réfléchir et d'être tout à fait applicable aux spécificités qui est portée par celle des sociétés de gestion. Donc, ça, c'est la première chose, on va dire, méthodologique. Et après, en termes de contenu, on a une deuxième chose, c'est que qui est spécifique à la thématique des droits humains, c'est qu'en fait, on doit essayer d'adresser des injonctions qui peuvent être assez vastes en termes de périmètre de sujet. Hein. On a parlé, Déborah a introduit à travers les études de cas, des questions qui peuvent être associées à du droit du travail. On peut avoir des questions qui sont associées à des achats, à des filières, donc à des problématiques qu'on peut trouver plus spécifiquement dans de la précarité, qu'on peut trouver pourquoi pas dans des centres d'appel, dans des filières agricoles, du coup, qui font une interface avec d'autres pays que l'économie française, donc d'autres environnements réglementaires. Et donc, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on arrive à organiser, et c'est l'objet de cette boîte à outils, quelque chose qui permette d'être un peu 4x4 et donc de s'adapter à différents environnements et à organiser un schéma de diligence raisonnable qui puisse être cohérent en réponse ou en anticipation de différentes formes de pression. Pressions qui peuvent être donc réglementaires. Et on a évidemment principalement et premièrement des injonctions réglementaires françaises et européennes avec la mise en place aussi quand même de la CSRD, de la CS3D prochainement. On a aussi une autre typologie de pression. En fait, derrière cette notion de droits humains, c'est d'appréhender, nous, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Le risque et en fait l'appréciation ou la dépréciation possible aussi dans la valorisation d'actifs. Parce que on peut se rendre compte que derrière ces questions-là, on peut mieux mesurer en fait bah, plusieurs enjeux de potentiellement de scandales, potentiellement de mauvaises qualités associées à l'insuffisance des ressources, enfin, des investissements qui sont faits dans les ressources humaines, dans du turnover, dans toutes sortes de choses qui font qu'entre un plan un OPEX qu'on pourrait voir, et puis en fait la réalité, en fait par manque de prise en compte d'enjeux de droits humains, bah, y a des risques. Donc ça, après, ça pose des questions à évoluer. Et puis évidemment, des pressions aussi financières dans le coût qu'on peut y associer. De plus en plus, on voit que dans la valorisation même de dette, ces sujets-là sont factorisés. Donc pour entrer dans le vif du sujet, l'idée en fait derrière ces éléments-là, c'est de dire que ce qu'on sait, c'est qu'on a un faisceau convergent. Et que la boîte à outils permet d'organiser un schéma opposable et méthodologiquement appuyé sur des standards internationaux, et que dans la manière dont on l'a construit, on a voulu organiser étape par étape une boîte à outils qui permette de pouvoir aborder différentes pressions qui peuvent être des injonctions soit réglementaires et autres, mais aussi associées et adaptables à différents contextes. Et je vais laisser ma collègue Solène Renard, expliquer un petit peu comment fonctionne cette boîte.
Alors, oui, bonjour tout le monde. Pour vraiment comprendre en fait tous les enjeux de l'humain et anticiper ces pressions que Farid vient de présenter, on a essayé de construire une boîte à outils assez simple pour vous permettre de vraiment appréhender tous ces enjeux. Donc, en fait, cette boîte à outils va se scinder en deux niveaux. Donc, le premier niveau, ça va être vraiment focalisé sur la sélection et la priorisation des risques des droits humains et d'engager en même temps le management de la société détenue. Donc, ce premier niveau, il va également être scindé en différentes parties. Donc, en première partie, on va identifier les principaux détenteurs de droits, donc par exemple les communautés et le secteur d'activité de la société détenue. Qu'est-ce que ça peut changer si la société est dans le textile, par exemple, ou les centres d'appel. Ensuite, une fois que ça a été fait, on va se focaliser sur le niveau de risque pays et sur les problématiques par secteur en matière de droits humains. Donc, pour cette étape, pour vraiment identifier les problématiques par secteur, car elles peuvent changer évidemment, on va se référer à plusieurs outils qui sont en open source. Donc, par exemple, vous avez SASB ou MSCI qui vous aideront vraiment à pouvoir identifier quelles problématiques de droits humains, quels enjeux et en accord avec votre secteur d'activité. Une fois que vous avez identifié toutes ces problématiques, vous les mettez en accord avec les normes SRS du standard de l'EFRAG. Donc, ces normes SRS balayent quand même une grande partie des problématiques, qu'elles soient environnementales, sociales et également sur le thème de la gouvernance. Donc, une fois que vous avez sélectionné les ESRS en accord avec vos problématiques et donc collecté également les documents, les documents, pardon, auprès de la société détenue, vous pouvez en fait analyser toute la chaîne d'approvisionnement. Regarder par exemple l'infrastructure de l'entreprise, tout le fonctionnement des ressources humaines, ses activités et évidemment toute la chaîne d'approvisionnement. Donc ça, c'est vraiment l'étape cruciale, l'étape 4 qui va permettre de passer au deuxième niveau. Et le deuxième niveau va être beaucoup plus concret car on va développer en fait la diligence raisonnable sur les incidences négatives résiduelles qui va nous permettre ensuite de faire un plan de suivi. Donc pour réaliser une diligence raisonnable, on va regarder encore les normes de l'EFRAG, les normes SRS, et on va réaliser un audit, une lettre de mission et mettre en place tout un plan d'avancement pour voir où on en est finalement. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va engager la société détenue pour mettre en place tout ce plan d'avancement et mettre en place un plan de progrès crédible qui permettra de prendre des décisions par la suite. Et finalement, on arrive au plan de suivi qui permettra de recueillir tous les retours d'expérience, mais surtout de voir quelles bonnes pratiques ont été faites, quelles bonnes pratiques devraient être mises en place dans le futur. Et tout ce schéma, en fait, permet vraiment de rendre simple et concret, normalement, tout le processus. Par exemple, sur la slide suivante. Là, je vous rappelle tous les objectifs en fait du groupe de travail qui s'intitule Durabilité dans la chaîne de valeur. Donc, on a vraiment essayé d'accompagner au mieux le groupe de travail de France Invest dans l'intégration des droits humains dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, qui permet finalement de simplifier les décisions d'investissement tout en intégrant les considérations relatives aux droits de l'homme. Pour vraiment construire cette boîte à outils, on a pris plusieurs critères en considération. Donc, tout d'abord, elle doit être adaptable, pardon, à toute taille d'entreprise. Donc, que vous soyez une PME ou une grande entreprise, vous pouvez vous y référer. Elle vous donnera le processus général qu'il faut adopter. Elle permet également de clarifier les droits humains et les réglementations, car on a vu qu'il y avait beaucoup de réglementations en vigueur. Donc, ça va permettre de simplifier cet enjeu de droit humain et tout ce qui se passe en termes de réglementation européenne. Ensuite, d'aider les investisseurs à cartographier les risques, donc par exemple à travers tous les outils, par exemple MSCI et SASB, ça va vous permettre d'identifier vraiment les risques liés aux droits humains et agir ensuite sur les problèmes en question, donc les problématiques que vous avez identifiées. Et finalement, à la fin de toute cette mise en place, vous devriez être opérationnel et beaucoup plus appréhender toutes ces problématiques de droits humains. Donc, finalement, durant ce groupe de travail, on a réussi à travailler sur des cas pratiques. Et donc, je vais laisser des membres de France Invest vous faire part de leur retour pour que vous pouviez être plus dans le concret. Voilà.
Merci Solène.
Merci. Je laisse la parole à vas-y, Sylvie. Je prendrai la fin sur.
Merci Déborah, merci Solène. Bonjour à tous. Pour nous, donc moi pardon, je suis Sylvie Lebraz, responsable ESG chez RK Capital depuis un peu plus de 4 ans. Et pour nous, ce guide, finalement, c'est vraiment une boîte à outils opérationnelle. Et je mettrai en avant trois apports principaux. Ça nous a d'abord permis de clarifier la notion de droit humain et de voir qu'elle est finalement beaucoup plus large que ce à quoi on pense de prime abord. Ça, c'est le premier apport. Le deuxième apport pour nous, ça nous a permis de mieux structurer notre démarche de diligence en matière de droits humains et également de mieux structurer notre démarche d'accompagnement des entreprises en portefeuille sur les sujets droits humains. Et enfin, c'est une véritable boîte à outils, comme je le disais en préambule. Et moi, j'ai particulièrement apprécié un outil nous permettant d'apporter des solutions, en fait. Dans le toolkit, vous trouverez un outil qui s'appelle l'ITC Standard Maps, qui permet d'identifier pour une matière première, pour une zone géographique, ou encore pour une thématique précise, les labels et les certifications qui existent et qui peuvent apporter finalement, que ce soit à l'investisseur ou à l'entreprise, un certain confort sur le respect de normes minimales par les fournisseurs, sur notamment les thématiques, droits humains. Du coup, pour nous, l'intérêt de ce guide, ça nous a permis d'être force de proposition auprès des entreprises dans lesquelles on investit. Chez Arca Capital, on a pas mal de participation dans les secteurs textiles et agroalimentaires, où on a vraiment donc des sujets matières premières agricoles, sujet qui est abordé dans un cas du guide Toolkit. Et ce sont des secteurs qui sont caractérisés par des enjeux droits humains sur la chaîne d'appro assez forts, en fait. Donc, ce guide nous permet d'accompagner les entreprises dans un premier temps dans l'identification de leurs principaux enjeux droits humains, zones de risque en matière pays de production, et puis de rechercher avec elles des solutions. À titre d'exemple, on a accompagné la reprise d'une PME dans le secteur textile par un nouveau management. Et dans le cadre de la définition de la feuille de route, on a d'abord fait un travail pour identifier donc ses principales zones de risque. Et ensuite, on a recherché avec cette entreprise des labels ou des certifications qui permettraient justement de donner une assurance sur le respect par les fournisseurs de garanties minimales. Et cette entreprise s'est fixée comme objectif d'engager ses fournisseurs dans une démarche de certification BSCI pour atteindre un objectif de 100% à horizon 2025. Donc, vous voyez, on a eu des utilisations extrêmement pragmatiques grâce à ce guide. Voilà ce que je pouvais vous dire et vous encourager à le lire et le parcourir avec attention. Céline, si tu veux compléter.
Merci Sylvie. Bonjour à tous. Donc Céline André, moi je suis directrice au sein du fonds Effet l'Essentiel, qui est un fonds impact et qui accompagne les acteurs de la transition énergétique et écologique. Donc on est particulièrement attentif aux droits humains et finalement par rapport à notre métier qui est de gérer des risques financiers, des risques sociaux, juridiques, fiscaux, de business model, ça rajoute juste une autre couche de risque à analyser dans la phase d'audit, dans la phase d'instruction. Et cette boîte à outils, pour être concrète comme toi, Sylvie, et je vais paraphraser probablement ce qui a été dit auparavant, mais ça nous a donné des outils et notamment des bonnes pratiques et une méthodologie à mettre en place. Et surtout de pas rester focus sur ce sujet ou ce gros mot droit humain qui peut faire peur. C'est un gros mot, mais en fait c'est pas si compliqué que ça. C'est comme pour pour l'analyse financière en première année quand on n'y connaît rien, on a une méthodo à appliquer. Là c'est la même chose. Et en fait cette boîte à outils, nous ce qu'on utilise beaucoup c'est notamment SASB et MSCI pour identifier les principaux enjeux ESG d'un secteur d'activité et pour se poser les bonnes questions en phase 1 dans le Q&A qu'on a en première intention avec le management où on commence déjà à leur poser et souvent on se rend compte soit les sociétés ne se sont pas posées les questions, n'ont pas été jusqu'au bout du raisonnement de leur chaîne de valeur et voir quels sont l'impact qu'ils peuvent avoir sur leur environnement ou quels sont l'impact qu'ils ont en fait en faisant appel à des fournisseurs X ou Y pour leur activité. Donc ça amène déjà un premier dialogue et l'idée, c'est plutôt de par ce dialogue, faire évoluer les choses, faire prendre conscience les entreprises pour que vous, quand vous rentrez dans cette entreprise, vous faites en sorte que ce qui était mal fait, finalement, commence à être un peu mieux fait et se rectifie. Il y a un enjeu qui est fort, et Sylvie en a parlé, qui est effectivement la feuille de route. Il y a un enjeu pour les investisseurs de suivre cette feuille de route lors des boards. C'est une responsabilité de l'investisseur et c'est des sujets, les droits humains, qui doivent être évoqués au board. Donc, tout le travail que vous avez fait en amont vous aide aussi à adresser des sujets, à être légitime sur ces sujets-là auprès des dirigeants. Et pour vous donner quelques exemples sur lesquels on a beaucoup réfléchi, Eiffel, on accompagne beaucoup la transition énergétique et donc les développeurs et producteurs d'énergie renouvelable. C'est un sujet un peu tarte à la crème maintenant, mais à l'époque, ça a été un peu un sujet qui nous a fait frémir, qui est le sujet des Ouïghours sur la création et la production des panneaux photovoltaïques. Alors, c'est arrivé concomitamment à la mise en place de la boîte à outils, mais finalement, ce qu'on a fait, c'est peu ou prou ce qui est recommandé par la boîte à outils. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la certification des fournisseurs. On ne sait pas ce qui se passe derrière, et bien évidemment, il faut faire confiance à ces certifications, mais vous pouvez démontrer que vous avez fait, pour paraphraser Xapa au début, les diligences raisonnables pour vous assurer que les fournisseurs de votre entreprise se source auprès de sociétés en Asie qui sont a priori pas qui ne font pas travailler les Ouïghours. Ça, c'est pour les panneaux solaires. Mais on a une multitude d'entreprises qu'on regarde sur lesquelles il peut y avoir des sujets de droits humains, pas forcément qu'en Asie. Effectivement, dès qu'on parle de l'Asie, il y a un petit buzzword qui clignote parce qu'il y a facilement les Ouïghours, il y a facilement le travail des enfants, il y a facilement des choses qui sont très, très identifiables. Mais même à l'échelle de la France, vous avez on a regardé des sujets dans les entreprises, dans les déchets. Quand vous êtes installé à côté d'un cours d'eau ou même que vous êtes sur le passage d'une biodiversité, l'entreprise doit se poser les questions sur quel est l'impact de son activité sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, donc ses fournisseurs, ses salariés, ses clients, etc. Mais également sur son environnement et ses voisins, en fait. Et son voisin, c'est aussi le cours d'eau. Donc ça amène, cette boîte à outils amène justement ce dialogue et ces petits réflexes pour constituer ces diligences raisonnables et ensuite poursuivre ce dialogue une fois qu'on est dans la société, au sein du board, et faire améliorer finalement les entreprises sur ces thématiques-là. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade.
Merci beaucoup. Alors juste, il y a une question sur donc la boîte à outils. Pouvez-vous revenir sur l'étape 2 et le lien avec les normes de l'EFRAG? Je pense que ce serait pour toi, Solène.
Oui,
On
bien sûr.
peut revenir à la slide précédente.
La slide 7. En fait, les normes SRS de l'EFRAG ont été mises à jour cet été. Elles reprennent assez en détail toutes les problématiques qu'on peut rencontrer. Donc, par exemple, pour les normes SRS environnement, on a tout ce qui va toucher au changement climatique, à l'énergie ou à par exemple la consommation de l'eau. Ensuite, pour toutes les ESRS sur le thème social, on va tout ce qui va toucher à vos salariés, à vos employés directs, mais également toute la chaîne d'approvisionnement avec les communautés et également les fournisseurs. Et finalement, on arrive à la dernière étape, qui est les ESRS sur la gouvernance. Donc, c'est plus sur la culture de l'entreprise, mais également le risque des pays, la corruption dans l'entreprise, au sein même de l'entreprise, mais au sein des pays. Donc voilà. On peut vous envoyer un lien un lien officiel des normes ESRS que le FRAG a publié, évidemment.
Merci Solène. N'hésitez pas à poser vos questions si vous le souhaitez. Sinon, moi, je vais poser une première question, peut-être pour Solène ou Farid. Concrètement, du coup, quelles sont les premières mesures ou les quick wins à mettre en place et par où commencer en fait sur tous ces sujets qui paraissent en tout cas très complexes?
Moi, je peux peut-être rebondir comme ça change un peu aussi les voix. Puisqu'on parlait de l'EFRAG, peut-être une première mesure, c'est quand on sait qu'on travaille dans un secteur, dans la boîte à outils, on nomme, et ça a été aussi évoqué, des sites web dans lesquels il y a de l'information de matérialité de profil, en fait. C'est-à-dire qui identifie quels sont des risques qu'on peut identifier dans tel secteur quand on travaille plutôt dans le textile ou dans l'agriculture ou je ne sais pas quoi. Et la première chose à faire, quick win, c'est de savoir de quoi on peut clarifier le profil de risque en matière de droits humains auquel on doit faire face. Parce qu'en fait, une fois qu'on sait quels sont véritablement les risques, et ça, c'est pas juste, comment dire, quelque chose qu'on invente soi-même pour foncer tête baissée sur des évidences, mais voilà, y a quelques outils qui sont proposés qui permettent de se dire, attention, dans tel environnement de travail, vous avez telle typologie de risque, pertinent, pas pertinent, là, vous pouvez commencer à avoir une première... Mais voilà, et quand on arrive à clarifier ça, et c'est très en lien finalement avec ces questions qui sont portées par les FRAC de double matérialité, bah, en totale cohérence avec ça, bah, parce qu'on sait ce à quoi on doit faire face, à partir de ce moment-là, on peut vérifier que ce qu'on met en place, la formation qu'on demande, adresse au moins ces risques. Et après, on peut se poser la question de savoir si cette information est suffisamment pertinente ou pas, mais déjà, tout ça c'est déjà plus loin. Donc, bah, la première chose à faire, c'est ça. Quand on est ignorant dans le sens où on ne sait pas de quoi on parle, bah, forcément, on peut pas adresser grand-chose.
Merci. Il y a une question. Vous mentionnez donc les outils SASB et MSCI pour les enjeux liés au secteur. Avez-vous aussi des ressources pour le risque pays?
Alors, dans la boîte à outils, on a mis plusieurs liens vers effectivement ce type d'information, à savoir que sur le risque pays, je dirais en droite ligne avec ce que je viens juste de dire, la principale question, c'est de savoir de quel risque pays on parle. Donc, c'est pour ça que justement, c'est d'autant plus important de clarifier un profil risque pour ensuite entrer sur des risques pays. Pourquoi? Parce qu'en fait, les ressources qu'on a mises dans la boîte à outils sont des ressources open source. Et donc, du coup, quand on rentre dans du risque pays, les ressources open source qui sont les plus pertinentes sont thématiques. Donc, on peut rentrer sur des problématiques, par exemple, de risque pays qui peuvent être, je ne sais pas, on peut avoir des sujets sur des sujets corruption, sur des sujets qui sont très, très d'actualité, en fait, de volatilité géopolitique. Enfin, on peut rentrer sur des thématiques comme ça qui peuvent être assez disruptives, mais voilà, il faut déjà savoir quelle est la typologie de problème.
Une question là, je crois. Okay. Pouvez-vous nous montrer un exemple d'analyse de droits de l'homme faite sur une activité, par exemple call center, que vous avez cité?
Peut-être qu'on pourrait faire profiter, demander à Sylvie ou Céline de peut-être de repartager un peu plus aussi leur contribution dans leur retour d'expérience sur les études de cas spécifiques qui ont été faites, peut-être une manière.
Alors moi, je n'étais pas sur celle sur les centres d'appel, mais en gros, concrètement, les droits de l'homme, d'un point de vue droit du travail, c'est les conditions de travail, c'est le respect du dialogue social, c'est le respect, enfin c'est la protection sociale, etc. Si vous investissez dans une entreprise française, on a tendance à croire que bah, le droit social français est tellement contraignant que on est waterproof, mais c'est pas forcément le cas. Donc il faut bien s'assurer, notamment par exemple, qu'on n'enchaîne pas les contrats intérimaires ou les CDD, qu'on respecte le dialogue social dans les entreprises et donc il n'y a pas de délit d'entrave et qu'il y a bien les institutions représentatives du personnel qui sont en place. Mais c'est des choses qui sont déjà normalement adressées dans les due deals sociales que vous faites en amont. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là où on pensait que ça n'avait qu'un impact finalement juridique sur le droit pénal et la responsabilité pénale du dirigeant, désormais, par ce biais du droit humain, vous, en tant qu'investisseur, vous pouvez engager votre responsabilité parce que vous avez laissé perdurer ce type de pratique. Et typiquement, surtout si vous en aviez eu connaissance lors de vos due deals. Ça, c'est pour la France, mais c'est vrai que tout ce qui est centre d'appel à l'étranger, il faut aussi s'interroger sur quelles sont les conditions de travail là-bas. Est-ce que ça respecte le salaire minimum? Est-ce que les temps de repos sont respectés? Est-ce que il y a une couverture sociale? Est-ce qu'il y a un dialogue? Enfin voilà. Est-ce que les enfants travaillent, etc. Donc en fonction du pays, pour rejoindre ce que disait Farid, il y a une surcouche d'attention à avoir selon le pays dans lequel l'activité est exercée. Et là, c'est sur les centres d'appel, on parle du droit du travail, mais il y a eu aussi, vous pouvez élargir sur tout ce qui est data center, à la biodiversité, à la protection de l'eau, à la protection des ressources. Et donc, ça une activité qui peut vous paraître très éloignée finalement d'un sujet droit social ou ressources primaires, finalement, avec cette boîte à outils, va vous amener à vous poser les questions et à prendre conscience de l'impact de cette activité dans l'environnement global dans lequel elle s'inscrit. Ça
Oui.
répond.
Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Céline, quand je disais au départ que finalement l'un des gros apports du guide, c'est de clarifier la notion de droit humain, c'est évidemment parce que souvent on a tendance à se dire, comme tu le disais tout de suite, Céline, qu'en France, il n'y a pas de sujet droit humain. Et pour prendre un autre exemple, on a vu fleurir ces dernières années en France et en Europe et partout ailleurs un certain nombre de plateformes qui emploient des travailleurs indépendants. Et c'est un sujet qui évolue beaucoup parce que finalement, on se rend compte que ces travailleurs indépendants sont finalement comme des salariés sans bénéficier toutefois des protections des salariés. Et voilà, on est en train de se rendre compte que ça évolue énormément. Il y a eu une proposition de directive européenne en décembre pour justement venir dire bah, qu'est-ce qui fait que... Un indépendant peut être qualifié de salarié ou pas, et ça peut venir bouleverser des business models d'entreprise. Voilà, donc il y a un enjeu droit humain fort qui peut avoir ensuite un impact financier hyper important. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas finalement écarter d'un revers de main tout risque droit humain en France. Et je crois que c'est un des gros enseignements du guide.
Donc, par exemple, pour vraiment rentrer dans le concret, on a pris en fait l'exemple du centre d'appel et on a utilisé l'outil MSCI qui nous a permis d'identifier des problématiques, donc premièrement environnementales, donc par exemple tout le management de l'eau, mais aussi tous les déchets électroniques. Après, on avait toute la catégorie sociale, donc par exemple la sécurité des données et donc toute la santé au travail et la supply chain, toutes les problématiques qui peuvent toucher toute la chaîne d'approvisionnement. Et finalement, en gouvernance, dans le centre d'appel, c'était une problématique qui ressortait. Et finalement, quand on avait toutes ces problématiques identifiées, on les a liées à l'EFRAG, aux ESRS de l'EFRAG. Donc, d'abord, on s'est tourné vers toute le SRS S1 qui est focalisé sur la main-d'œuvre interne. Ensuite, le S2 qui est sur toute la chaîne de valeur. Donc, en fait, au vu de tous les risques qu'on a identifiés, on ne va pas prendre tous les ESRS, on va en prendre quelques-uns qui sont en accord avec les risques identifiés. Et ensuite, on va mettre les actions en place qui correspondent à tous ces ESRS et on va regarder quels documents on peut collecter pour avoir l'information en accord. Voilà.
Merci, je rebondis juste, j'ai une question sur la partie PME. Donc, quel conseil on pourrait donner à une PME qui peut structurer pour commencer concrètement ce type de démarche? Farid, je peux
Bon, par exemple, oui, en fait, le positionnement alors ça peut prendre la forme d'une politique, dite politique droits humains, ou qui peut englober d'autres thématiques aussi, hein. Mais en fait, cette capacité à dire j'ai conscience qu'avec mes métiers, mes activités, et je suis une PME, ça change pas grand-chose, voilà le type de risque auquel je suis exposé. Donc, être capable de lister plusieurs risques. Alors, on peut être une PME, effectivement, et je pense que l'exemple d'être bien ancré dans nos territoires en France et de dire qu'à un moment ou à un autre, une partie des activités dépend, par exemple, de sous-traitance en cascade et que ça peut générer des risques qui ont déjà été évoqués par enfin, juste là, donc je vais pas les répéter, mais c'est un exemple. Donc, dire qu'on est conscient de ça et le poser, en fait, le structurer dans un document, sans avoir la prétention d'être capable de tout gérer, mais au moins de démontrer cette maturité et de dire qu'après, en faisant son meilleur effort, on essaie de voir comment gérer les choses. Et que c'est un progrès continu, que c'est pas évident, et qu'on fait ce qu'on peut, qu'on n'a pas forcément d'influence non plus pour changer des pratiques quand on est ultra minoritaire dans certaines, je sais pas quoi, lignes d'achat. C'est déjà une chose. Voilà. Donc je pense que ça fait déjà une grande différence entre être capable de poser ça comme principe de base de maturité et de progrès continu, de recherche de progrès continu, que de faire l'autruche.
Merci. Il y a une question. Comment intégrer la dimension culturelle locale dans les droits humains? Exemple, travail des enfants qui peut être accepté dans certains pays.
Alors, je veux bien apporter les premiers éléments de réponse sur cette question parce qu'on est tout le temps confronté pour rappeler deux choses et répondre à la question. La première, c'est que des fois, il y a cette notion un peu que les droits humains, c'est une espèce de notion un peu occidentale ou autre. Il faut quand même rappeler que le truc de base des droits humains, c'est que la Déclaration universelle des droits humains en 1948 a été votée par un nombre de pays très large, excluant ou intégrant bien plus que. Quelques pays occidentaux, et c'est quand même important de le rappeler, des pays dans un environnement précolonial, enfin encore non pas postcolonial, mais en Amérique latine, au Moyen-Orient, Arabie saoudite notamment, en Asie, un certain nombre de pays qui ont soutenu ça. Donc c'est quand même un principe de base qu'il faut rappeler. La deuxième chose pour autant, c'est qu'effectivement, oui, il y a, on va dire, un socle réglementaire. Et culturel qui varie voilà, en fonction de toutes sortes de variables, et il faut évidemment tenir compte et pas arriver avec des démarches et des idées préconçues. Bon, c'est très important parce que sinon on n'arrive pas à faire progresser des pratiques sur le terrain. Une fois qu'on a dit ça, typiquement la problématique du travail des enfants, pour reprendre cet exemple-là, accepté culturellement dans certains pays, pour reprendre la manière dont c'est évoqué, bah, en fait c'est une problématique qui est très intéressante parce que déjà, il y a généralement une corrélation entre travail des enfants et pauvreté. C'est-à-dire que quand vous êtes dans des milieux où des enfants travaillent et que c'est culturellement accepté, c'est parce qu'en fait, on a besoin de compléments de revenus. C'est-à-dire que dans tous les environnements, quand vous améliorez le revenu, on va dire, du foyer, vous réduisez le travail des enfants. Donc, bon, il y a quand même cette corrélation-là. Donc, quand on travaille sur les questions de pauvreté, en général, il y a une corrélation sur la réduction du travail des enfants. Et puis le accepter culturellement, bah, en fait, ça dépend de quoi on parle. Par exemple, typiquement, quand il y a pas mal d'environnements, vous travaillez en Côte d'Ivoire sur certaines filières, ou j'ai un autre exemple comme ça, par exemple en Malaisie, bah, le travail des enfants, quand vous parlez en fonction des interlocuteurs avec lesquels vous travaillez, évidemment que les Ivoiriens ou les Malaisiens considèrent que le travail des enfants, c'est pas bien. Mais par contre, en fait, le travail des enfants est accepté pour les travailleurs migrants, qui occupent par exemple dans des filières agricoles jusqu'à 85% en fait des filières. Et là par contre il y a du travail des enfants. Mais là en fait du coup le culturellement accepté en fait ça dépend de quelle population on parle. Donc vous avez même des populations locales en fait qui en fait considèrent que en s'élevant hors de la pauvreté c'est pas quelque chose qui est accepté, mais qu'en fait c'est accepté pour une autre population entière qui fait le travail en fait que je dirais la population locale de base ne fait plus. Donc tout ça pour dire que le culturellement accepté, c'est tout à fait formulé d'une manière qui crée de l'acceptabilité. Donc du coup, on ne peut pas changer des pratiques parce que quand on a des interlocuteurs ou on investit dans une société ou dans la sous-traitance, tout le monde va dire, bah oui, mais ça fait partie de la manière dont on travaille. Mais en fait, quand on creuse vraiment, ce sont des problématiques qui méritent d'être... on revient sur des principes universels. Où au final, le travail des enfants, ben, il y a des conventions internationales de l'Organisation internationale du travail. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui disent que globalement, c'est pas bien. Et qu'en fait, la question, c'est de trouver les bons leviers avec lesquels on arrive à faire progresser et réduire, en fait, et réduire ces types de risques, plutôt que d'être dans une posture finalement simplement d'acceptation et de dire bah, c'est une pratique normale. En fait, non, au final, ce n'est pas une pratique normale. Non, je ne sais pas si d'autres personnes veulent réagir, mais je pense que c'est important.
Merci Farid. On a une question aussi sur comment aider les PME qui font face à des transferts de responsabilités de la part des donneurs d'ordre sur certains sujets comme les minerais de conflit, alors qu'elles ont peu de leviers, VS des grands groupes pour agir. Qui veut répondre à cette question?
C'est une question un peu technique.
Mmh.
Bah, pour être concret là-dessus, bon, nous, on a notamment un groupe de travail sur les. On travaille en fait sur les technologies, enfin les composants sensibles dans les technologies vertes. Et du coup, on analyse pas mal la pertinence ou pas d'un certain nombre de certifications. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une problématique qui fait qu'il y a certains cahiers des charges dans des certifications qui sont très bien, mais qui ne sont pas déployés dans les environnements où il y a les principaux risques. Donc là, dans ces questions de droits humains, il y a l'action qu'on peut mener directement, et l'action, on va dire, plutôt collaborative, collective, qu'on peut mener dans des plateformes. Et donc là, il y a un vrai enjeu, je pense, pour des PME qui font face à ce transfert de responsabilité. D'adopter ces cahiers des charges et de peser sur certaines plateformes qui notamment certifiantes bah, pour encourager le déploiement sur les zones qui les concernent directement. C'est un levier. Un deuxième levier qui est exploré dans certains cas, bah, c'est vous savez, en environnement, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, là, il y a une responsabilité d'innovation qui peut être portée aussi sur ces PME-là pour étudier soit des approvisionnements alternatifs, soit des schémas notamment de circularité alternative. C'est un deuxième levier. Et puis, un troisième levier qui peut être mis à disposition dans ces problématiques-là, c'est que si les approches notamment via ces organisations certifiantes, sont insuffisantes, quelles peuvent être les approches territoriales, qui peuvent être mises en place en réponse? Donc, sans utiliser au sens strict la certification, comment reprendre les principes de la certification et travailler sur des territoires? Nous, on a des programmes comme ça dans différentes géographies où on regarde avec les autorités locales, avec notamment des acteurs, voilà, des coalitions, on va dire territoriales, la manière d'adresser plusieurs enjeux qui sont portés par les schémas certifiants sans pour autant voir le schéma, enfin, la possibilité de déployer les actions certifiantes. Et pour des PME qui peuvent être très dépendantes en fait de certains approvisionnements sur certains territoires, les moyens à mettre en place sont pas importants. En fait, la question c'est pas des moyens. Par contre, c'est une question plutôt d'engagement. Et de voilà, c'est vraiment c'est plutôt une question, je dirais, d'engagement et territorial pour le coup, et de montrer que c'est important et de pour essayer de faire évoluer des pratiques à la limite, comme en reprenant cet exemple-là de ce qui peut être socialement acceptable culturellement ou pas, bah, en fait, de démontrer que pour continuer à être un acheteur, un investisseur, un acteur qui travaille sur le territoire, ben, il y a des pratiques, on va dire, territoriales qui doivent évoluer. Ne serait-ce que par enjeu de conformité réglementaire, et autres.
Pour compléter juste sur ce point, nous on a vu dans certaines sociétés la mise en place de chartes qui étaient imposées aux fournisseurs et on leur laissait un certain délai pour se mettre en conformité par rapport à certaines normes, notamment sur la qualité du travail ou la gestion des déchets, les rejets dans l'eau, etc. Et donc le fournisseur finalement avait l'option soit de s'y conformer et de faire évoluer ses pratiques, soit finalement de perdre un client. Et souvent, c'est des fournisseurs qui sont quand même assez dépendants de ces PME-là. Donc, ils font ce qu'il faut. Ça met du temps, ils sont accompagnés. Et l'entreprise, la PME française, a aussi une responsabilité d'accompagner son fournisseur sur ces thématiques-là. Mais c'est encore une fois par le dialogue et par ces chartes de bonnes pratiques que ça passe aussi.
Super, merci. Je reprends une autre question. Là, c'est plus sur le début du webinaire. Vous avez mentionné la CS3D. Pouvez-vous expliquer le lien entre cette nouvelle charte CS3D et les droits humains? Et comment elle va s'appliquer?
Faut savoir que sur les droits humains, il y a toutes les lois nationales. Donc, par exemple, le devoir de vigilance en France ou The German Supply Chain Act. Et en fait, d'un autre côté, la Commission a adopté en 2022 donc la CS3D, qui est Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Et elle s'applique à un niveau européen et sur tout le sujet d'identification et de prévention des risques de violation des droits humains. Donc, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la CS3D est différente de la CSRD, parce que la CS3D, elle donne une directive aux grandes entreprises et elle dit vous devez faire ça, alors que la CSRD par exemple est un reporting de ce que l'entreprise fait. Donc c'est elle qui décide ce qu'elle va mettre dans ça c'est dans son report dans son rapport pardon, CSRD. Alors que la CS3D c'est plus une directive avec des obligations de reporting. Donc finalement, elle a été proposée en 2022 et donc elle devrait être adoptée officiellement normalement en 2024 pour la CS3D et elle devrait rentrer en vigueur 2 ans plus tard en 2026 ou en 2027. Voilà.
Merci Solène. Il n'y a pas d'autres questions, donc on peut peut-être projeter juste la boîte à outils. Elle sera disponible sur le site de France Invest. Donc on a la version en français et on a aussi la version en anglais. Donc on vous enverra de toute façon la présentation à l'issue de ce webinaire. Et j'ai aussi le plaisir de vous annoncer une formation qui est spécifique aux enjeux donc de droits humains qui sera animé par XAPA. Donc n'hésitez pas à vous inscrire aux prochaines sessions qui aura lieu le 3 juillet prochain et le 17 décembre. Voilà, donc vous avez le contact aussi de Solène si vous souhaitez plus de détails sur tout ce qui est droits humains. Merci beaucoup. Je remercie l'équipe France Invest pour l'organisation de ce webinaire et merci aussi à Anne pour la formation qui a été publiée là assez rapidement. Donc c'était un plaisir en tout cas de travailler avec vous et je vous dis à bientôt.